Bonsoir, c'est le chiffre du jour révélé ce matin par BFM Business. EDF perd 100 000 clients par mois depuis l'été. Alors, la faute aux nouveaux opérateurs qui montent en puissance, qui sont de plus en plus nombreux. La faute peut-être, on verra. EDF a probablement aussi sa responsabilité. Alors, reste à savoir si tout ça est véritablement rentable pour les nouveaux entrants, si le consommateur est franchement gagnant. Bon, il y a toujours la question des tarifs réglementés. Mais un jour, est-ce que EDF va céder sa place? Est-ce que son monopole va s'affaisser? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, et comme tous les soirs autour d'un dossier de l'actualité, eh bien, des experts, des acteurs, les meilleurs comme à chaque fois. Il y a Daniel Fava, le directeur général d'Eni, le groupe pétrolier italien, opérateur justement alternatif ici en France. Benoît Thirion, consultant dans le cabinet Altermine en charge du secteur énergie. Altermine, c'est une société de conseil en stratégie. Celui qui vous a révélé eh bien l'information ce matin, tout naturellement, Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business. Avec nous également Xavier Pinon, fondateur du comparateur des fournisseurs d'énergie Selectra, qui compare les fournisseurs d'électricité, de gaz, d'accès Internet, d'opérateurs mobiles également. Et puis un autre opérateur alternatif, alors peut-être plus nouveau, moins connu, mais il nous expliquera eh bien comment il compte percer. C'est Julien Tchernia, à la tête d'Équateur, E-K-W-A-T-E-U-R, Équateur, voilà, qui est fournisseur collaboratif d'électricité 100% verte et de gaz naturel. Alors, Mathieu Pechberti, je le disais, les chiffres que vous avez révélés ce matin, ce sont les chiffres officiels de la CRE, hein, la commission de régulation de l'énergie, un peu l'autorité régulatrice de ce secteur. Hein. L'état des lieux, justement, avec vous, on voit donc les opérateurs alternatifs qui rognent des parts de marché à EDF.
Hein. Oui, c'est vraiment une tendance qu'on observe en fait depuis de longs mois. Hein. C'est bien avant cet été. Hein. Ça fait une bonne année. Alors on le voyait pas tous, les professionnels le voyaient, et nous on s'en rend compte depuis effectivement quelques mois, c'est que les clients partent de chez EDF d'une manière assez massive. 100 000 clients par mois, c'est effectivement cette grande tendance, et ça se vérifie vraiment de manière systématique tous les mois, enfin tous les trimestres, c'est 300 000. Vous voyez, depuis début 2016, donc ça fait quasiment deux ans, EDF a perdu 1 750 000 clients. Donc voilà, cette règle de 100 000 par mois vraiment se vérifie à chaque fois. Alors, le marché de l'électricité en France, il est libéralisé depuis 10 ans.
Ouais.
Ça, 2007. C'est entre guillemets la théorie. Et en fait, c'était une sorte de duopole au milieu duquel il y avait un seul petit concurrent.
Direct Énergie qui est arrivé parmi les débuts, hein, bien sûr.
Ensuite, sont arrivés d'autres concurrents, notamment Eni, mais qui n'arrivaient pas véritablement à percer. Et là, c'est en train de s'ouvrir. Alors aussi parce qu'il y a d'autres concurrents, aussi parce que il y a un marché d'électricité qui a beaucoup évolué. Les prix de gros sur lesquels se fournissent une partie de ces opérateurs alternatifs qui ont beaucoup baissé. Donc ça a permis de créer un espace économique qui permet à ces acteurs de dire on va peut-être y aller aussi, et même si encore une fois c'est pas facile de gagner de l'argent.
Ouais, on verra justement, il faudra nous expliquer ce système des prix régulés, justement comment ça fonctionne, et puis s'il n'y avait pas les prix régulés, qu'est-ce qui se passerait justement. Voilà, restez avec les décodeurs de l'écho. Oui, Daniel Fava, la tête d'Eni en France. Vous l'aviez vu cette tendance, vous l'aviez senti justement, et cette accélération même depuis l'été?
Oui, alors on l'a senti déjà parce que, comme vous l'avez rappelé, on est sur le marché depuis 5-6 ans maintenant. Donc on est près des consommateurs, on suit aussi le législateur, on voit les choses évoluer, on voit des innovations et on aide aussi l'innovation à se développer. Donc effectivement, on avait ressenti une accélération depuis le milieu de l'année dernière, et effectivement la baisse des prix de gros de l'électricité a accéléré le mouvement en créant cet espace économique qui permet de faire un minimum de marge pour ensuite investir dans l'innovation et dans le développement.
Oui, on verra justement, ça fait partie des armes, hein, des opérateurs alternatifs, justement, eh bien travailler sur l'innovation, faire la différence donc avec les historiques, hein, que sont EDF et puis Engie, bien entendu. Oui, les parts de marché, hein, Benoît Thirion, justement, on voit, compte tenu eh bien de ces départs donc des clients, des opérateurs historiques, on voit eh bien les opérateurs alternatifs qui maintenant totalisent 17% de parts de marché. Il y a 25 opérateurs, 25 fournisseurs d'électricité et de gaz, et même le quart de parts de marché pour le gaz. Voilà, donc ça, c'est une tendance vraiment lourde maintenant. Hein.
Oui, absolument. C'est vrai que, comme vous le disiez très bien, ça fait quelques mois maintenant qu'on observe cette tendance à l'accélération de la concurrence sur le marché de l'électricité. Il faut aussi prendre un petit peu de recul quand même. Comme vous le disiez aussi, le marché a été théoriquement libéralisé depuis 10 ans. Donc, c'est quand même très long. EDF conserve ce qu'on pourrait quand même qualifier de quasi-monopole, ah oui, puisque c'est encore 83% des parts de marché sur le marché résidentiel. Mmh. Et en comparaison avec d'autres pays européens, c'est une situation assez singulière, puisque les autres pays européens ont un taux de concentration du marché qui est plus limité que le marché français.
Donnez un exemple, par exemple, donnez quelques exemples.
Par exemple, l'Allemagne, il y a un grand nombre de fournisseurs, c'est plusieurs centaines de fournisseurs sur un marché qui est structuré de façon très différente, mais il y a 6 fournisseurs principaux qui ont autour, je crois, de 60 ou 70% de parts de marché. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que la France. Idem en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, qui était l'un des premiers pays à vraiment libéraliser son marché en supprimant les tarifs réglementés, parce que c'est un facteur important sur lequel on reviendra sans doute. Là aussi, il y a beaucoup de fournisseurs différents qui se partagent des parts de marché qui n'atteignent en aucun cas le niveau d'EDF.
Donc, ce que vous voulez dire, il y a encore de la marge quand même. 25 opérateurs aujourd'hui en fin 2017. Il y a encore de la place pour tout le monde.
Alors, la marge est peut-être pas tant sur.
Faudra nous expliquer quand même si c'est bien rentable pour ces opérateurs. On en parlera.
Tout à fait. Je pense que c'est une question légitime. Le nombre de fournisseurs, on voit que 25, c'est quand même pas négligeable. Mais il va plutôt être sur la dynamique pour que les offres proposées par ces fournisseurs, qui aujourd'hui sont parfois moins chères, souvent moins chères que les offres d'EDF, et plus innovantes, pour que en fait le consommateur se saisisse aussi de ces possibilités-là. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, qu'il va naturellement vers EDF. Et c'est ça qui explique les 83% de parts de marché d'EDF.
Combien de clients chez Eni en France sur le secteur de l'électricité ?
Alors, sur le gaz et l'électricité, c'est ce qu'on communique sur ces chiffres, on arrive au million de clients.
Voilà. Un million de clients. Le premier opérateur, et Mathieu l'a rappelé, c'est évidemment Direct Energy. 2,5 millions de clients revendiqués par Direct Energy. 80% de particuliers. 5,000 nouveaux clients par jour, selon Xavier Caïtucoli, l'un de ses dirigeants. Et vous, Julien Tchernia, donc président d'Équateur. Alors, beaucoup plus nouveau, évidemment, que Direct Energy, que Eni. Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous proposez? Combien de clients? Qu'est-ce que vous pesez?
Bonsoir. Alors nous, on est un des derniers nés, puisqu'on est une start-up et qu'on est sur le marché depuis septembre 2016, donc ça fait à peine 14 mois. Et aujourd'hui, on est à 50 000 clients, ce qui fait que comme le marché est émietté dans des milliards de tout petits schtroumpfs, là, on a des grands schtroumpfs, mais nous, on fait partie des petits schtroumpfs. On est, en un an, passé de la 25e position à la 7e position en termes de fournisseur national. Donc, c'est encore un marché qui est extrêmement fragmenté dans le peloton arrière, on va dire, et où il y a tout à faire. C'est ça qui, avec mon associé, nous a donné envie de nous lancer dans l'aventure et de créer ce fournisseur.
Et comment se distinguer, justement, ce que je le disais? Donc, vous êtes axé sur du 100% vert, c'est ça?
Tout à fait. Donc, il y a plusieurs aspects qui permettent de se distinguer. Le prix est un premier aspect, mais après, tous les opérateurs alternatifs se tiennent à peu près dans la même bande, puisque la structure du marché de l'énergie ne permet pas de casser les prix comme on l'a vu dans le marché des télécoms, par exemple. Et donc, derrière, nous, on veut apporter autre chose, c'est-à-dire d'abord du renouvelable. On fait de l'électricité 100% renouvelable et du biométhane aussi. Et puis, on est aussi une société collaborative, c'est-à-dire que pour permettre de redonner de l'argent à nos clients qu'on ne peut pas redonner via les prix, on les fait participer à notre activité et on les rémunère pour ça.
D'accord, je comprends. Alors, ça fait partie des nouveaux entrants. Faudra nous parler de Total aussi, Mathieu Pechberti, dans un instant, parce que c'est peut-être aussi la grande surprise aussi de cet automne, de ce début d'hiver, des nouveaux entrants. Tiens, Cdiscount aussi, alors dans un tout autre genre, bien entendu. C'est Emmanuel Grenier, le PDG de Cdiscount, qui était venu nous en parler, donc, à la veille du Black Friday. On l'écoute, on revient tout de suite. C'était dans les décodeurs.
C'est la même électricité pour tout le monde, puisque c'est le même distributeur qui est Enedis pour tous les acteurs. Donc, c'est le même niveau de qualité de service. C'est 5 minutes pour faire l'inscription, donc c'est très simple. Et puis, elle est surtout la moins chère, parce qu'on est à moins 15% quand tous les autres acteurs sont à moins 8, moins 10%. Donc on est... Voilà,
Emmanuel Grenier, donc à la tête de Cdiscount, qui se lance sur le marché électricité. Or justement, Xavier Pinon, vous à la tête de Selectra, ce site comparatif. Sur quoi reposent les offres des différents concurrents? On a entendu Julien Tchernia mettre en avant notamment son 100% vert. On a entendu Emmanuel Grenier dire « moi je fais du moins 15% ». C'est quoi les offres tarifaires agressives ou pas pour certains ou certaines?
Alors oui, bien sûr, il y a des offres tarifaires qui permettent de faire des vraies économies par rapport aux tarifs réglementés. Donc l'ordre de grandeur pour un consommateur moyen dans une maison toute électrique, par exemple, c'est de l'ordre de 200 euros par an d'économies qu'on peut faire en changeant de fournisseur, donc c'est assez significatif. Et il faut bien comprendre les différents types de tarifs qu'on peut retrouver sur les marchés. Donc d'une part, les tarifs réglementés, d'autre part, des offres à prix fixe qui, elles, vont promettre aux consommateurs de ne pas bouger le prix, de ne pas augmenter le prix sur toute la durée du contrat. Et puis d'autres offres à prix indexé, souvent par rapport aux tarifs réglementés, qui elles vont garantir un pourcentage d'économie dans la durée par rapport aux tarifs réglementés. Et c'est bien souvent ce type d'offre qui nous semble être d'ailleurs le plus avantageux.
C'est quoi les armes des opérateurs? Tiens, Daniel Fava à la tête d'Eni, on entendait tout de suite Emmanuel Grenier dire « c'est simple, on est sur Internet ». Et tout de suite, on peut changer d'opérateur. C'est ça, c'est la souplesse, la facilité de changer rapidement?
Oui, c'est la souplesse. Après, il faut quand même partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la moitié seulement des consommateurs savent que le marché est ouvert.
Hein. Oui.
Donc, Internet est une réponse. Ouais. C'est pas l'unique réponse, puisqu'effectivement, quand on sait pas qu'un marché est ouvert, on va pas chercher sur Internet. Ça veut dire aussi qu'il faut aller au devant des consommateurs, à travers des réseaux entre guillemets plus traditionnels qui prennent le temps d'expliquer les bénéfices de l'offre, que ce soit d'un point de vue tarifaire, mais aussi de l'accompagnement. Donc nous, on a diversifié nos canaux de distribution et notamment, on a des canaux de proximité. L'autre chose qui...
Quand vous dites canaux de proximité, c'est quoi alors?
C'est des réseaux de commerciaux, c'est de la distribution notamment. Et puis, l'autre volet qui favorise le changement et qui peut apporter un bénéfice auprès du consommateur. On a beaucoup parlé du prix, des différentes formules. Alors, Eni se positionne, on a été l'inventeur en France, on va dire, du prix fixe pluriannuel. Hein. C'est-à-dire que nous, on propose des offres à nos clients depuis déjà plusieurs années qui sont de 3 ou 4 ans avec un prix fixe bloqué. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre succès et notre approche. L'autre volet, c'est effectivement l'innovation et surtout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui recherchent uniquement une offre d'énergie et potentiellement l'Internet peut être une bonne réponse. Mais vous avez aussi des clients qui veulent de la maintenance de leur chaudière, qui veulent assurer leur ramonage, qui veulent avoir des financements pour faire des travaux d'isolation au sein de leur logement. Et Eni a développé cette couche de services qui permet d'adresser une palette de clients qui ont la volonté d'être beaucoup plus accompagnés et d'être beaucoup plus sereins autour de leur consommation.
Oui, parce que quand on a ni centre de production comme vous, ni tuyaux comme Enedis, comme GRDF, finalement, sur quoi se fait la différence pour un opérateur alternatif? Il faut quoi? Surtout des bons logiciels pour prévoir la consommation, pour gérer les prix, c'est ça aussi, Julien Charnia?
Oui, nous, on se considère presque plus comme informaticien que comme énergéticien.
Carrément.
Le métier, c'est à partir du moment où nous, on n'est pas producteur. La plupart de nos concurrents qui sont au-dessus de nous sont producteurs. Donc, leur vrai métier, c'est de produire pour vous vendre ce qu'ils ont produit. Hein. Je produis du Coca-Cola et je vous mets du Coca-Cola dans ma boutique. Nous, on peut gagner autant d'argent en vendant de l'eau, des abricots ou plus prosaïquement des économies d'énergie. Et pour ça, il faut des systèmes informatiques qui vont détecter le moment où cette économie est intelligente pour le client, quel type d'économie, je change de chaudière.
Prêt à dire quand il a envie de boire son Coca-Cola, même si vous n'en produisez pas, voilà, parce que vous avez un bon logiciel qui vous fait dire qu'à un moment, il a envie d'en boire.
Ou lui dire, prenez de l'eau plutôt.
Ou prenez
de l'eau. Hein. Puisque nous, on n'en produit pas du Coca-Cola. Voilà, je peux vendre de l'eau avec plaisir aussi.
Ouais, c'est ça aussi, Daniel Fava aussi. Voilà, vous êtes aussi quelque part un bon informaticien, comme le dit Julien Charnia.
Alors, de toute façon, dès qu'on adresse des marchés dits retail résidentiels, il faut aujourd'hui un système d'information qui soit structuré et qui soit flexible, agile, parce qu'effectivement, les tendances de marché évoluent. Et notamment, on se rend compte qu'on parle toujours du marché et des consommateurs, mais tous les consommateurs répondent pas aux mêmes exigences. Hein, on l'a vu, il y a des consommateurs qui souhaitent des offres vertes, il y en a qui souhaitent être accompagnés sur des services, il y en a qui souscrivent via du téléphone, via de l'Internet, via un commercial qui peut venir à leur domicile. Donc, il faut avoir des offres qui épousent différents segments de clientèle, évidemment. Pour que ce soit possible, il faut un système d'information qui puisse être en mesure de développer plusieurs offres avec plusieurs tarifications possibles.
Alors, on a parlé des nouveaux entrants, on a parlé de Cdiscount, on a parlé d'Équateur, on pourrait parler de Butagaz également. Et puis Total. Alors tiens, Total aussi. Ça, c'était l'annonce choc, hein, il y a deux mois à peu près, hein, octobre, hein, Mathieu Pechberti. Est-ce qu'on a des chiffres pour Total Spring, c'est-à-dire la fourniture d'électricité par le géant pétrolier, cinquième pétrolier mondial?
Écoutez, Total a déclaré, le patron de Total a déclaré dans un déplacement qu'ils étaient autour de 2 à 3 000 clients par jour. Moi, j'avais entendu quand même un petit peu moins, donc on va le croire par précaution.
Ils visent 3 millions dans moins de 5 ans, c'est faisable?
Oui, alors en fait, ils visent 3 millions dans 2 ans. Hein. Enfin, ouais, ils le disent pas parce que c'est compliqué pour eux, mais ils vont pas attendre 5 ans pour avoir... Quand on s'appelle Total, si vous voulez, on peut pas... Voilà. Faut y aller fort. Donc, ils disent effectivement qu'ils vont être bientôt à 500 000 clients, ce qui est effectivement assez important. Donc, bientôt, c'est peut-être dans 6 mois, à l'été prochain. En tout cas, ils ont des ambitions très fortes, mais... Force est de constater que Total ne propose pas grand-chose d'autre qu'un prix plus bas.
Enfin, c'est ça.
Dans ce marché électricité, alors effectivement, vous parlez d'innovation, de services, mais la grande majorité des clients bougent pour des raisons de prix. Et ils bougent pour des raisons de prix et aussi parce que ils ont compris que c'était pas compliqué de bouger, de changer de client, qu'ils allaient pas s'éclairer à la bougie du jour au lendemain, que c'est compliqué parce que sur votre facture on vous parle de centimes d'euros en kilowattheure et que personne ne comprend rien. C'est important, c'est vraiment la base. Mais vous parlez des télécoms. Télécoms aussi, se sont aussi beaucoup ouverts dans les années 2000 parce que il y avait des forfaits. Vous vous souvenez, il y avait forfaits, il y avait un prix, un forfait, puis on savait ce qu'il y a dedans. Là, dans l'électricité, c'est plus compliqué. Encore une fois, on parle de kilowattheures. Voilà. Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait changer d'opérateur. Ils avaient peur des coupures d'électricité.
Ouais,
c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des clients
je me souviens, les opérateurs historiques à l'époque, en disant, si vous allez chez la concurrence, chez un alternatif, jamais vous ne pourrez revenir parce que tout ça, évidemment, il faudra souscrire un abonnement. Donc, nécessairement, ça faisait pas. Ils jouaient un peu là-dessus aussi.
Ils jouaient là-dessus. Ah, ouais. Et puis, il y avait aussi un point important, quand même, que je tiens à souligner, c'est que, depuis une dizaine d'années, les deux gros opérateurs historiques que sont EDF pour l'électricité et l'ancien GDF Suez, Engie pour le gaz, il y avait une sorte de pacte de non-agression entre eux quand même. C'était, bon, je te pique un peu de clients, mais pas trop, je suis pas trop agressif sur mes offres commerciales, et puis chacun garde son monopole. Et puis il y a pas eu un moment où Engie a commencé à perdre le sien dans le gaz, puisque en fait l'ouverture du marché a d'abord commencé sur le gaz, et ben ce pacte a volé en éclats, et aujourd'hui Engie d'ailleurs essaye d'attaquer EDF de manière assez agressive sur l'électricité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est EDF qui est touché.
Benoît Thirion, Altermind. Vous me faisiez signe quand Mathieu parlait.
oui, je pense que c'est important effectivement de rappeler la complexité finalement du système, parce que ça va impacter sur le choix des consommateurs ou pas d'aller à la concurrence. Comme le disait Daniel Fava, aujourd'hui, il y a près d'un consommateur sur deux qui ne sait pas qui peut changer, de fournisseur. Ouais. Et il y en a un sur dix qui pense que s'il change de fournisseur, il faut changer de compteur. Donc on voit que il y a quand même tout un travail de pédagogie à faire sur ces questions qui n'a pas été fait dans l'intervalle des 10 ans depuis l'ouverture à la concurrence.
2007,
et les choses se complexifient encore un peu plus quand aussi on comprend la façon dont se forme le prix de l'électricité, c'est-à-dire que paye le consommateur. Et je pense, si on a deux minutes pour faire un peu de pédagogie...
Oh bah ça, on va l'expliquer dans le détail après. Je voudrais qu'on reste toujours sur les opérateurs. Oui, Julien Tchernia, Équateur.
Moi, je voulais continuer sur... En fait, on parle de prix, on parle de service. Nous, on constate que ça ne suffit pas pour faire bouger un client. Il y a effectivement ce déni qu'on repère avec ces 50% de personnes qui ne savent pas qu'on peut changer, alors qu'on leur en parle vraiment très très régulièrement. Et ça oblige nous fournisseurs à trouver des moyens de vente alternatifs où il nous faut un tiers de confiance. Alors par exemple, Daniel parlait de quelqu'un qui venait à domicile et qui expliquait exactement, qui prenait le temps. Selectra est un tiers de confiance pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est comparateur sur Internet et qui va dire « vous pouvez le faire, moi j'ai analysé toutes les offres ». Et donc on est encore sur un marché qui est peu mature. La fin d'EDF, peut-être. Et il y a encore beaucoup de travail.
La question qu'on se pose.
Parce que
un jour, la fin du monopole.
Il y a un attachement fort à cette marque et à l'idée qu'elle représente encore le service public à la française.
La puissance, voilà, c'est ça.
Et ce qui n'est plus le cas, c'est plus un service public.
Xavier Pinon, Selectra.
Oui, je voulais revenir sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Donc 17% de part de marché pour les fournisseurs alternatifs sur l'électricité, 25% de part de marché sur le gaz. Mais qui est le deuxième fournisseur en France d'électricité? C'est Engie, de très loin, devant Direct Energy, et qui est le deuxième fournisseur alternatif de gaz en France.
EDF.
Donc, vous en êtes certain?
Sur le segment résidentiel.
Sur le segment résidentiel, mais au global, entreprise et résidentiel, c'est Engie qui est le deuxième.
Et quand on dit que EDF a perdu des parts de marché, particulier et professionnel ou que particulier?
Alors, ils ont perdu beaucoup avec la fin des tarifs réglementés pour les professionnels, qui est déjà intervenu sur les segments des moyens et grands consommateurs. Et ils en perdent aujourd'hui davantage sur les particuliers, qui est ce sur quoi on concentre la discussion ce soir.
Oui, juste les nouveaux opérateurs, Mathieu Pechberti, toujours sur Total, la stratégie Total pétrolier, est-ce qu'elle est comprise? Que vient faire un pétrolier sur ce marché? Parce que on voit aussi, on attend d'autres distributeurs. On a parlé de Cdiscount, Leclerc également qui pourrait arriver sur ce marché, Auchan également. on voit quand même des nouveaux entrants qui ne sont pas forcément liés au marché de l'électricité, quelque part. Hein. C'est un petit peu bizarre, non ?
La logique de Total, elle est toujours la même. C'est-à-dire qu'eux ne se voient plus comme un pur pétrolier. D'ailleurs, en fait, Total fait la moitié de son chiffre d'affaires sur du gaz. Hein, donc, peu de gens le savent, mais c'est très important. Et ils voient bien qu'à l'horizon de 20 ans, il faut se diversifier et que... Il faut être plus un énergéticien, donc il fait un peu de tout, du pétrole, du gaz et de l'électricité. Et puis ils sont aussi pragmatiques, parce que c'est juste une entreprise, et qu'ils voient qu'il y a un marché très important sur leur marché national qui est en train de s'ouvrir. Et ils voient bien que EDF, de toute façon, à moyen terme, enfin à horizon 5-10 ans, va perdre des parts de marché. Et que quand on s'appelle Total, qu'on a 2000 stations services en France, c'est plus facile de capter des clients que quand on est une petite start-up. C'est logique, il y a une marque, ils ont énormément d'argent, ils investissent beaucoup dans le marketing. Donc les gens, en total, ils connaissent cette marque. Donc forcément, ils iront là-dessus. Hein.
Un mot, Daniel Fava, Eni.
Alors, Eni, c'est aussi à la base, vous
un
savez,
pétrolier
un
italien,
pétrolier
bien sûr.
Un gazier. Pourquoi des pétroliers ou des gaziers viennent à l'électricité? Simplement parce qu'on va vers l'après-pétrole.
Hein, juste, bien sûr.
Très clairement. Et du coup, c'est aussi...
Beyond pétrolier.
Voilà, ce sont des axes de différenciation, de diversification. On va vers une électrification de l'énergie en général et des moyens d'usage. Et donc, de toute façon, c'est un axe de diversification important.
Ouais, cette désaffection vis-à-vis d'EDF, alors on a vu la montée en puissance des opérateurs, très agressifs, très énergiques, sans jeu de mots. EDF a-t-il ou pas sa part de responsabilité quand même, Mathieu Pechberti? Qu'est-ce que paye EDF dans cette histoire? C'est quoi? C'est leur prix, leur service? On évoquait la SNCF hier, après cette gigantesque panne, avec cette question autour du service rendu. Est-ce qu'on est dans le même registre? Oui ou non, Mathieu?
Écoutez, quand vous êtes un monopole, vous ne vous occupez pas de vos clients, par définition. Vous les avez, ils sont à vous. Personne ne doit vous les piquer. Donc c'est un peu l'histoire de tous les monopoles, hein, que ce soit EDF, Orange a connu ça également, et puis d'autres secteurs par le passé. EDF, enfin, l'aspect commercial n'a jamais été au centre des intérêts stratégiques d'EDF. Alors, aujourd'hui, ils commencent à se réveiller un petit peu parce qu'ils voient que les clients s'en vont. Mais on a toujours parlé des problèmes de production, des problèmes des centrales nucléaires, des problèmes des barrages, enfin, ce que vous voulez. Mais les clients, encore une fois, ils étaient là et ils n'allaient pas bouger. Quant au prix, les prix ont été fixés par l'État pendant... Enfin, depuis
47.
Oui, c'est ça. J'hésitais un peu sur 40 ou 50 ans. Mais après-guerre, depuis 2 ans seulement, c'est le régulateur qui fixe les prix qui peuvent être dénoncés par le gouvernement. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans la tambouille administrative, mais c'est en train aussi de s'ouvrir. Si ces tarifs venaient à sauter, ces fameux tarifs réglementés, là, ça serait tout autre chose.
Juste, Mathieu, vous qui savez rentrer dans les entreprises, hein, vous infiltrez comme ça quelque part, comment on réagit chez EDF? Est-ce qu'on est un petit peu désarçonné quand même de ce qui se passe tout autour ou pas?
Écoute, il les voit bien, les clients qui s'en vont. Donc, comme d'habitude, quand vous êtes quasi monopole, leader incontesté sur un marché, vous dites que c'est pas inquiétant, que les choses vont s'améliorer, etc. Cela dit, c'est pas non plus la panique, parce qu'il y a des problèmes bien plus graves que les 100 000 clients, et on en parle souvent.
Non, les centrales nucléaires, bien entendu.
Voilà. Et puis, EDF, de toute façon, à un moment donné, ils voient bien qu'ils ne pourront pas tenir le marché par les deux bouts, c'est-à-dire par les clients et par la production, c'est-à-dire le parc nucléaire. De toute façon, EDF est aussi dans le viseur de la Commission européenne, notamment pour ces raisons, depuis très longtemps. Donc, il y a bien un moment donné où, je ne dis pas qu'ils vont devoir lâcher, mais ils vont devoir quand même, à un moment donné, concentrer leurs investissements. Et EDF ne concentrera pas ses investissements sur le commercial.
Non.
EDF concentrera ses investissements sur la production.
Production.
Et donc, quelque part, cette fin du monopole dont on parle, elle est inéluctable. Et elle est en train d'arriver.
Et les clients ne reviendront pas, ceux qui sont partis?
Ils ne reviendront pas totalement. Alors après, sur 10 clients partis, peut-être qu'un reviendra, et il reviendra en plus sur des plus
moins.
Comment ils réagissent? Alors évidemment, les invités, EDF, bien sûr, mais bon, ils ont opportunément décliné, bien sûr, l'invitation. Xavier Pinon, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils lancent leurs propres offres alternatives, EDF, comme Orange a lancé Soch, comme SFR a lancé Red également. Voilà, il y a de nouvelles offres un peu alternatives aussi au sein même des historiques, des legacy.
Alors, il y a eu historiquement une stratégie différente entre Engie et EDF.
Oui.
Engie a proposé ses offres à prix fixe à ses clients, a sorti une offre également qui s'appelle API, d'électricité moins chère, low cost, tout en ligne. ce que EDF s'est refusé à faire pendant très longtemps. Mmh. Mais on a vu des innovations très récemment chez EDF, avec la sortie d'une offre d'électricité 100% renouvelable.
Il y a eu Sowi aussi.
Et avec un nouveau fournisseur qui s'appelle Sowi, qui est une filiale à 100% d'EDF, qui fonctionne vraiment comme une start-up, et qui est arrivée avec un produit innovant. C'est d'ailleurs suffisamment intéressant pour le signaler. C'est un thermostat connecté, une station connectée, sur laquelle vous pouvez notamment définir le budget mensuel que vous souhaitez fixer pour votre facture d'énergie.
Je comprends.
Donc si jamais vous avez une variation de la température prévue, ça vous envoie une alerte en vous disant attention, le budget risque d'être dépassé, une vague de froid arrive. Enfin, donc c'est un objet connecté particulièrement intéressant à mon avis.
Allez-y.
Donc vous avez chez EDF effectivement
une réplique,
des initiatives,
un début de réplique.
Absolument, qui se concentrent davantage sur les services que sur les prix.
Ouais, enfin en tout cas, on voit encore une fois Benoît Thirion, voilà, c'est la règle de plus en plus. Le consommateur juge, hein, il sanctionne vite et il change tout aussi rapidement. Voilà, que ça soit dans le téléphone, que ça soit dans la télévision, et puis donc voilà maintenant l'énergie.
C'est vrai qu'aujourd'hui le consommateur a la possibilité de changer, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que on est un peu au bout d'un système pour EDF aussi. Quand on parle de fournitures et de tarifs réglementés notamment, c'est que on voit que EDF son monopole, son quasi-monopole sur le marché de masse est préservé parce que les tarifs réglementés existent. Mais par ailleurs, l'État, son actionnaire, est pris dans des contradictions qui sont énormes parce qu'il fixe des tarifs. Il a longtemps fixé des tarifs réglementés à un niveau qui était artificiellement bas pour protéger le pouvoir d'achat du consommateur. En même temps, il a aussi essayé de maximiser ses dividendes.
Il est actionnaire
en tant
aussi.
Qu'actionnaire, voilà. 80% d'EDF, donc il a beaucoup tiré sur les dividendes d'EDF, y compris d'ailleurs en requérant l'endettement d'EDF pour lui payer ses dividendes. Il n'a pas fait les actions de transformation dans l'entreprise qui auraient été nécessaires. Et donc, quelque part, aujourd'hui, il y a cette impasse-là. Alors, comme vous le disiez, les règles de calcul des tarifs réglementés font qu'aujourd'hui, ils sont fixés à un niveau qui est un peu plus révélateur des coûts. Mais il n'empêche qu'il n'est pas incité forcément à l'innovation, pas incité à la compétitivité, à l'amélioration de ses coûts pour faire face à une concurrence
de plus en plus vive, voilà, qui s'exacerbe. Bon, on continue dans un instant. Oui, un jour peut-être la fin du monopole pour EDF. Oui, c'est déjà bien parti. On continue les décodeurs de l'écho sur BFM Business avec nos experts, avec nos acteurs. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, est-ce qu'un jour EDF devra céder sa place? Est-ce que EDF va voir son monopole s'affaisser avec la concurrence qui s'exacerbe, qui s'accélère? Et c'est Mathieu Pecheverti qui nous révélait les chiffres de la commission de régulation de l'énergie ce matin sur BFM Business. Hein. EDF perd 100 000 clients par mois depuis l'été. Et oui, c'est une tendance d'ailleurs qui dure depuis un petit peu plus d'un an maintenant. EDF qui a perdu presque 2 millions de clients, ces opérateurs extrêmement vifs. Alors, est-ce que EDF va réagir? Bon, en tout cas, oui, Mathieu Pecheverti, vous nous disiez tout à l'heure, peut-être que EDF a d'autres chats à fouetter. Le parc nucléaire, l'état du parc nucléaire, la dette. Tiens, d'ailleurs, il y a quand même une bonne nouvelle pour EDF, puisque l'ASN, le gendarme du nucléaire, a autorisé donc aujourd'hui le redémarrage de la centrale du Tricastin, donc arrêtée depuis début octobre. Ouais. Il y avait un problème de digue, il y avait un risque d'inondation. Bon, comment il va fonctionner ce parc nucléaire alors que le froid arrive, hein?
Écoutez, il faudrait en tout cas qu'il fonctionne quasiment à plein régime. C'était la société qui gère l'ensemble de nos lignes à haute tension, le réseau de transport d'électricité, RTE, qui s'en inquiétait il y a quelques semaines en disant que l'hiver dernier, il y avait quand même une bonne douzaine de réacteurs qui étaient arrêtés en plein hiver au moment du mois de janvier où il fait extrêmement froid, les températures très froides.
Ici même, ouais.
Où on n'est quand même pas assez on n'est pas passé très loin, entre guillemets, d'une coupure importante, ou en tout cas de moyens exceptionnels mis en place en France sur nos lignes électriques. Donc, EDF a besoin de tous ces réacteurs. En tout cas, pour s'assurer qu'au moment où il fera très froid, ils pourront tourner à plein régime.
Ouais, bien sûr.
Alors qu'à l'inverse, la plupart du temps, c'est-à-dire le reste de l'année où il ne fait pas très froid, EDF a, entre guillemets, trop de réacteurs. Parce qu'il y a plein de réacteurs qui, entre guillemets, ne servent à rien, ou en tout cas, entre guillemets, produisent. Et comme on est en surproduction, et ben ça pèse en tout cas sur les prix.
Oui, tiens, Julien Tchernia, vous faites signe.
Oui, tout à fait, j'ai une question au journaliste d'investigation. Pourquoi l'autorité de sûreté nucléaire demande toujours la fermeture des centrales nucléaires avant l'hiver? Et ben après, vu que justement elle fonctionne moins après, les tuyaux ont l'air d'être rouillés depuis un certain temps, donc on pourrait soit le faire 6 mois avant, soit le faire 6 mois après. Je pose la question.
Et il était venu, Pierre Conchevel, patron de la SN, ici même. Il assume complètement ses choix. Hein. Hiver ou pas hiver, s'il doit arrêter, il arrête.
L'occurrence, elle a fermé à l'automne et elle rouvre juste avant l'hiver. Donc c'est plutôt. Mais ce qui se cache derrière cette question,
parce que le point
qui est intéressant, c'est que derrière cette question, beaucoup pensent que certaines fermetures de réacteurs qui ont lieu notamment l'hiver dernier, entre guillemets, ont arrangé EDF dans la mesure où, comme il y a une surproduction et une surcapacité de production, quand vous produisez trop, et les centrales, vous ne les arrêtez pas en 2 heures pour les rallumer le lendemain, donc vous êtes, quand elles sont lancées, et quelque part, quand vous produisez trop, ça pèse sur les prix, donc vous faites baisser vos prix, et quelque part, vous êtes perdant. Donc, que quelque part, il y a quand même cette suspicion qui demeure dans le marché, mais qui, alors moi, je n'ai pas réussi à la prouver, je n'ai vu aucun chiffre là-dessus, qui dit que ça, entre guillemets, arrange aussi EDF d'avoir des réacteurs fermés, parce que ça l'empêche de produire trop, et donc ça lui évite de voir ses prix trop baisser. C'est quand même ce qu'il y a derrière cette question.
Ouais, Daniel Fava, donc à la tête d'Eni France. On revient sur les nouveaux opérateurs. Oui, après,
mais je voulais juste compléter ce que disait Mathieu. C'est en fait, c'est au moment où les droits à Rennes, l'accès à l'électricité nucléaire de
DF, le fameux accès régulé à l'énergie, à l'électricité nucléaire,
au mois de novembre, c'est toujours un peu avant que les centrales ferment, de manière à maintenir des prix de marché à ce moment-là assez élevés pour que finalement les opérateurs souscrivent à l'AREN. Donc c'est tous les ans la même histoire.
Il y a une petite fourberie, c'est ce que vous dites.
Probablement qu'il y a quelque chose de préparé chaque année pour que ça tombe bien au moment où les prix soient élevés, au moment où il faut aller se sourcer sur le marché. Par contre, je voulais quand même revenir un petit peu. Quand on dit 100 000 clients par mois qui quittent EDF, alors c'est vrai que c'est un gros chiffre, mais finalement, c'est très peu, c'est-à-dire...
On va rappeler, il y a 37 millions de Français qui sont connectés, reliés au réseau électrique.
Exactement. Et du coup, vous vous rendez compte, sur un monopole de 37 millions à la base, il y a 10 ans, uniquement 5 millions aujourd'hui ont quitté EDF. En 10 ans de concurrence, donc vraiment, on voit là que l'organisation du marché...
Faible bilan,
la manière dont s'est construite la concurrence, dont elle a été préparée, notamment par les pouvoirs publics, et évidemment, la proximité qu'a EDF avec l'État, On rappelait tout à l'heure 85% de participation de l'État dans EDF, 20 milliards d'euros de dividendes payés à EDF vers l'État sur les 10 dernières années, des sociétés de transport, notamment Enedis, qui font des bénéfices faramineux.
Enedis et GRDF ont le monopole sur 95% du territoire.
Exactement. Voilà. Elles ont le monopole, mais ce qui est quand même assez absurde d'un point de vue de la concurrence, c'est qu'elles appartiennent toujours pour l'une à EDF, 100% à EDF,
et l'autre
100%
à
Engie, ex Gaz de France.
Bien sûr.
Quand vous regardez le résultat d'exploitation de GRDF, par rapport à son chiffre d'affaires, c'est 30% d'EBIT par rapport au chiffre d'affaires. Je veux dire, il y a des industries qui, dans le luxe, n'ont pas ce pourcentage de rentabilité. Quand vous êtes en monopole, c'est complètement inacceptable. Donc, il y a un peu un transfert, finalement.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que, on peut pas faire vraiment de comparaison. Donc, tout simplement, ce qui est un tarif réglementé, il y a des monopoles, il y a des gens qui ont peur également et qui ne savent pas forcément qu'on peut changer, tout ça. Finalement, c'est pour ça que cette ouverture à la concurrence, elle aurait tellement pu être plus rapide, plus énergique, plus évident s'il n'y avait pas tous ces freins, c'est ça?
Bien entendu.
C'est un échec?
Mais oui, aujourd'hui.
Parce que, par exemple, vous, Daniel Fava, qui avez connu aussi la téléphonie, parce que vous êtes un ancien Numérica, Billiard, de Cégétel, on peut faire un comparatif avec la téléphonie ou c'est pas du tout le même système?
Alors, on peut le faire jusqu'à un certain point, on le disait tout à l'heure. Dans la téléphonie, chaque opérateur peut être maître de ses infrastructures et donc complètement maîtriser sa chaîne d'innovation, sa chaîne de valeur, sa chaîne de coût. Dans l'énergie, il faut quand même avoir en tête, sur quand un consommateur paye 100 euros dans sa facture, il y a globalement plus d'un tiers qui est lié au réseau de transport, des infrastructures de stockage qui appartiennent globalement à EDF et à Gaz de France. Il y a ensuite un tiers qui sont des taxes, TICGN, les C2E, etc. Donc à la fin, la compétition, elle se fait sur un tiers de la facture qui est vraiment, pour l'électricité, la fourniture de l'électron, pour le gaz, la fourniture de la molécule. Donc c'est évident qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas dans la situation des télécoms où, à part, j'ai envie de dire, la TVA, vous aviez sur 80% de la facture une différenciation qui était possible.
Qui est nette. Et d'ailleurs, je cite Xavier Caetucoli, donc le patron de Direct Energy, qui explique que ce marché des particuliers est assez restreint puisqu'il pèse seulement 35% de la consommation d'électricité. C'est un marché d'une petite clientèle diffuse, marché beaucoup plus difficile à conquérir. Donc, difficile d'être rentable, de chercher de trouver de la rentabilité facilement ou pas?
Alors, oui.
Julien Tchernia. Donc Équateur.
Nous, on s'est lancé avec mon associé sur nos fonds propres et donc on ne sera rentable qu'à autour de 120 000 clients. On a réussi une très belle croissance, mais il faut espérer
pouvoir la faire. Notre taille critique, c'est 120 000.
Notre taille critique, c'est 120 000. Et à partir de là, il faut voir aussi la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 25 pour gérer 50 000 clients. Chez EDF, c'est 30 000, 80 000, je ne sais pas. Ils en gèrent beaucoup plus, mais en pourcentage. Donc on est sur des équipes beaucoup plus réduites. C'est ça qui nous permet de faire des coûts plus bas. Par contre, il faut un volume minimum pour arriver à être rentable, bien sûr.
Mathieu Pecheberti, Benoît Thirion, quand on s'appelle Total, on peut se permettre de perdre un petit peu d'argent, peut-être, sur Total Spring, en attendant que les clients soient au rendez-vous. Mais quand on est Cdiscount, quand on est Équateur, plus difficile, non? Il y aura des morts au final ou pas?
Ah oui, ça c'est sûr. Hein? Encore une fois, là, je pense que pour le coup, on peut faire le parallèle avec le marché des télécoms. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'acteurs qui voient bien qu'il y a un espace économique quand même qui est en train de se créer, potentiellement, qui va être plus difficile à tenir que ce qui s'est passé dans les télécoms pour le coup. Donc forcément, beaucoup d'opérateurs se lancent, et aussi parce qu'ils sentent bien que les consommateurs réalisent qu'ils peuvent changer. Mais alors, vous, votre taille critique, c'est 120 000, mais c'est
plus de 1 million, non?
Mais pour les opérateurs plus gros, ouais, c'est effectivement 1 million. Ouais. Donc, par définition, prouver, ceux qui n'arriveront pas à 1 million, ça sera compliqué pour les indépendants. Par exemple, vous voyez, des opérateurs télécoms comme Orange, même Free, à regarder le sujet, cherchent à lancer des offres d'électricité, ou en tout cas étudient. C'est pas pour faire de l'électricité, ils en ont rien à faire, c'est pour noyauter le client, c'est pour le verrouiller. Ouais. Parce que quand vous avez une box Orange, que vous faites de la téléphonie, de l'internet, de la télé, et que vous rachetez l'électricité, et ben pour avoir le courage de changer de box et de devoir tout changer, voilà.
Compliqué. Donc
l'idée, c'est quand même de noyauter les clients.
Benoît Thirion, Altermind.
Oui, il y a un sujet qui est important, je pense aussi dans ces questions de concurrence, c'est le sentiment du consommateur dans le marché actuel. Puisque aujourd'hui, il y a un marché qui est assez peu lisible, où finalement, il y a un monopole avec des tarifs réglementés et de la concurrence avec des tarifs, on va dire, libres en partie, comme vous le rappeliez. Et donc, le consommateur a quelque part aussi l'idée qu'il est protégé par les tarifs réglementés. Et c'est pour ça que finalement, il y a assez peu de mouvements. Et c'est une idée importante, à mon avis, à déminer un petit peu sur ce plan-là. C'est que les tarifs réglementés, finalement, ils n'ont pas été tellement au bénéfice du consommateur.
Non.
Puisque quand ils étaient fixés à un niveau artificiellement bas, finalement, le juge les a annulés et donc le consommateur a fini par le payer avec les rattrapages sur les factures qu'on a vu tout récemment. Quand ça a contribué à dégrader un petit peu la situation financière d'EDF, l'État a dû souscrire une augmentation de capital de 3 milliards et donc c'est payé par le
contribuable.
Et donc, il y a quand même cette idée aussi que finalement, le consommateur n'est pas protégé par les tarifs réglementés et qu'il a intérêt à aller voir les offres aujourd'hui moins chères sans se dire mais est-ce que je dois le faire sachant que finalement ces tarifs réglementés continuent.
Il faut revenir sur le tarif régulé. En juillet, le Conseil d'État avait décidé de valider l'ouverture des tarifs du gaz voulu par l'Union européenne. Est-ce qu'il en sera de même pour l'électricité? Est-ce que les opérateurs le veulent? C'est l'association nationale, votre association nationale des opérateurs alternatifs, hein, la NOTE, présidée par Fabien Chaunet, donc de Direct Energy, qui explique si tous les clients de l'électricité basculaient au prix le moins cher, ce serait 2,5 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui reviendrait aux ménages. Alors, ça va venir ou pas, cette fin de tarifs régulés? C'est quoi la position d'EDF, du régulateur, Mathieu Pecheberti?
Alors, déjà, ils vont disparaître dans le gaz.
Dans le gaz, oui, bien sûr.
Pas encore quand.
Pour ça, je parle d'électricité.
Et sur l'électricité. En revanche, moi, je ne crois pas qu'ils disparaîtront de sitôt. EDF est quand même
c'est politique.
EDF est quand même au cœur du système. En gros, pour comprendre, qu'est-ce qui se passe si les tarifs d'électricité disparaissent dans 2 ou 3 ans? Vous avez 25 millions de clients EDF à qui on va dire, on vous oblige à changer d'offre. Pas à partir d'EDF, mais à changer d'offre. Mais le réflexe des consommateurs, ça va être partir d'EDF.
Tout de suite.
Donc, du jour au lendemain, le pouvoir politique n'acceptera jamais ça. Là, vous tuez l'entreprise qui est déjà dans une situation extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. C'est juste le constat qui serait appliqué. Ça s'est déjà passé pour les entreprises. Quand il y a eu la fin des tarifs réglementés pour les entreprises, tout ont été obligés de changer et ça fait très très mal à EDF. Donc moi, j'y crois pas une seconde.
Bon, c'est quand la fin du monopole d'EDF? Tiens, un tour de rapide, chacun un mot, puisqu'on se dit au revoir. Oui. Daniel Fava, Eni.
Non, mais nous, on pense aussi que la vraie concurrence et la vraie fin du monopole, ce sera lorsque les TRV, les tarifs régulés, seront définitivement supprimés.
Benoît Thirion.
Moi, je crois que c'est un processus qui est au final assez inéluctable de faire jouer la concurrence mieux en supprimant les tarifs réglementés. Ce qui ne veut pas dire la mort d'EDF.
Ouais.
La concurrence n'est pas la mort d'EDF.
Ce n'est pas le but.
Ça sera attaché à EDF.
Mathieu,
EDF perd un point de part de marché, 1% de part de marché par trimestre. Mmh. Donc dans 5 ans, si on continue sur ce rythme, c'est 20 points. Passer de 83% à 63% de part de marché, là, on est vraiment dans la fin du monopole.
Xavier Pinon.
C'est vraiment le consommateur qui va décider. Et aujourd'hui, il fait plutôt des choix basés sur la tradition, sur l'habitude. Et demain, il va faire des choix rationnels en allant comparer les prix.
Et il sera vraiment gagnant à ce moment-là.
Et il sera vraiment gagnant.
Il n'est pas tellement. Oui. On termine avec vous, Julien Tchernia.
Moi, je veux l'aider à être rationnel. On parle beaucoup de tarifs réglementés de vente. Ils ne sont pas construits pour protéger le consommateur. Ils sont construits de par la loi pour couvrir les coûts de l'opérateur historique et lui assurer une marge raisonnable.
Les
je vous assure
pipés.
Que la marge raisonnable chez Équateur, c'est pas la même que celle qui est calculée par la Commission de régulation de l'énergie pour EDF.
Merci à tous. Merci Daniel Faval, directeur général d'Enib, Benoît Thirion, consultant dans le cabinet Altermain, spécialisé dans le conseil en stratégie dans l'énergie. Mathieu Pechberti, le roi des scoops, tous les matins sur BFM Business dans les journaux avec Stéphane Soumier, avec Aurélie Planex. Merci beaucoup Xavier Pinon, fondateur de Selectra, comparateur des fournisseurs d'énergie, puis Julien Tchernia, autre opérateur alternatif, président d'Équateur. C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.